Europe 1. Europe 1. On te la raconte.
Cette histoire débute le 16 janvier 1978. Il est 3h30 du matin et Stéphane Bisset dort tranquillement dans son pavillon de Sucy-en-Brie, c'est à 20 km au sud de Paris. Et soudain, en pleine nuit, on sonne à la porte, il fait un bond dans son lit, il pense tout de suite à un plaisantin, à un ivrogne. Il va à la fenêtre et il voit deux enfants à la porte. Il ouvre, il s'apprête à les engueuler et il reconnaît les deux petits voisins, les fils Thoreau, Frédéric et Olivier, en pyjama, en plein hiver. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a eu un attentat à la maison. Papa a été tué, maman a disparu, ils l'ont emmené avec eux. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'Olivier est couvert de sang. Alors il descend les escaliers 4 à 4, sa femme le rejoint et ils font rentrer les gamins pour qu'ils se réchauffent. Pour les protéger, quoi. Ils les connaissent très bien, les voisins, les Thoreau. C'est effroyable ce que racontent les gamins. Et tout de suite, ils appellent et le SAMU et la police. Quand les policiers arrivent dans le pavillon, une grande maison, un peu en retrait sur la hauteur, ils tombent sur une scène de dévastation. La villa est sans dessus-dessous et sur le canapé, le père, Yves Thoreau, mort. Le crâne éclaté, il y a du sang partout. Et la mère, comme l'ont dit les gamins, n'est pas là. Et sa voiture non plus d'ailleurs, une Austin Morris, ses ravisseurs ont dû partir avec. Les Thoreau sont des commerçants, ils planquaient leurs recettes dans un coffre aménagé dans le plancher. Et le coffre est grand ouvert et il est vide. Le SAMU, quand il arrive, s'occupe des gamins. Olivier, le plus grand, a reçu de la chevrotine dans la cuisse. Il a perdu du sang. Et Frédéric a pris un coup de crosse sur la tête. Ils sont amochés, tous les deux. Et en plus, il va falloir leur annoncer une autre terrible nouvelle. Leur mère, Michèle Thoreau, on vient de la retrouver. Morte, au bord d'un petit chemin près d'une rivière, on lui a tiré une décharge de chevrotine pile entre les deux yeux. Sa tête a éclaté. Et les gamins sont sous le choc, bien sûr. Impossible de les interroger, les policiers ne sont pas des monstres. Ils ont perdu leur père et leur mère, dans des conditions effroyables. Ils ont 11 et 13 ans, et ils sont orphelins. Alors l'enquête attendra, le SAMU les emmène vers l'hôpital. Avant de partir, ils ont juste dit deux choses aux policiers. Il y avait un homme et une femme. C'est la femme qui a tué papa. Et l'attaque a eu lieu la veille au soir, à 20h30. Le jour même, l'affaire est dans toute la presse et le voisin Stéphane Bisset est en première ligne.
Les explications donc des enfants étaient, qui étaient d'ailleurs restés très lucides, que les bandits sont rentrés dans la maison à 8h à peu près, qu'ils ont demandé de lever les bras. Le père a dit « mais c'est une plaisanterie ». Et la dame qui accompagnait le voleur a tiré à bout portant donc sur le père, il l'a tué. Ils avaient des carabines à chevrotine, c'est-à-dire une carabine de chasse. Et d'après ce que j'ai pu entendre après, ils avaient trois carabines à chasse, puis plus une 22 coupée. Les enfants ont été attachés dans une pièce, la mère a été séquestrée. Les enfants donc attachés ne devaient plus bouger jusqu'au matin, sinon la mère aurait été tuée.
Et en fait, ils sont partis ensuite avec Madame Thoreau après avoir tué son mari.
Ils sont partis avec Madame Thoreau. Ils ont mis la télévision au maximum de sa puissance pour que les enfants aient toujours l'impression qu'ils étaient là. Et vers 3 heures, ils se sont détachés et ont vu que le père était bel et bien mort. Ils sont venus chez nous.
L'enquête est confiée au 36 Quai des Orfèvres à Paris. Et maintenant, il faut que je vous raconte quelque chose qui s'est passé juste avant la découverte de ce carnage. À 1h du matin, à Saint-Mandé, c'est une ville qui touche Paris, à l'est. Dans une petite rue, une Austin Morris vient de se garer. Un homme en descend. Et pile à ce moment-là, arrive une voiture de police, un gyrophare. Est-ce que dans les phares de la police, l'homme montre une quelconque nervosité? En tout cas, la voiture de police s'arrête et deux policiers en descendent. L'un se poste à l'avant de l'Austin et l'autre s'approche du conducteur qui, entre-temps, est remonté dans la voiture et qui a, à côté de lui, une femme. « Vos papiers, s'il vous plaît !» L'homme se penche alors comme s'il allait chercher ses papiers dans la boîte à gants. Mais le policier le voit tout de suite. Il y a un fusil à canon scié sur le sol, au pied de la passagère. Alors ni une ni deux, le policier plonge vers l'arme et il parvient à l'arracher des mains du conducteur et il dégaine. Mais au même moment, dans le même élan, le type passe la première et l'Austin s'arrache. Les policiers ouvrent le feu, l'Austin est déjà au bout de la rue. Alors les policiers courent vers leur voiture et les prennent en chasse. Il y en a un qui dit « Faut faire gaffe, il y a deux autres fusils dans la bagnole !» Mais à la hauteur de l'esplanade du château de Vincennes, l'Austin a disparu. Ils ont réussi à semer les flics. Quelques minutes plus tard, à 1h10, la voiture est repérée à Joinville-le-Pont, qui roule lentement, tout feu éteint. Un car de police se met alors en travers de la voie. Un flic saute sur la route et dégaine. Mais l'Austin accélère et elle fonce sur lui. Le policier vient percuter le pare-brise. Il atterrit 10 mètres plus loin, grièvement blessé. Mais ça va très vite. Une autre voiture de police arrive. L'Austin parvient à l'éviter et elle enfile une petite rue. Mais c'est une impasse. C'est une impasse. Le chauffeur descend. Il a un fusil de chasse à la main. Il dit à la femme... « C'est le moment! Dehors! Vite, vite !» Et elle se met à courir et elle tente de le suivre. Mais elle ne court pas assez vite. Les policiers la rattrapent et la plaquent au sol. Le type, en revanche, s'est fait la malle. Mais pas très loin, il se fait repérer par une patrouille sur les bords de la Marne. Alors il s'accroupit derrière un bosquet, le doigt sur la détente de sa carabine. Et il voit venir vers lui deux policiers. Et il se redresse d'un coup, et la détonation sèche de son fusil claque dans la nuit. L'un des policiers est touché. Mais il riposte, ses balles se perdent dans la nuit. Le type tire à nouveau, c'est l'autre policier qui est maintenant touché. Et il s'enfuit, cette fois, pour de bon. Et vous avez bien compris que ces deux-là, ceux qui viennent de s'enfuir et celle qui s'est fait prendre, sont les auteurs du double assassinat qui n'a pas encore été découvert, mais dont vous, vous savez tout. L'assassinat du couple Thoreau à Sucy-en-Brie. Là, il est 2h du matin. Les gamins à cette heure-ci sont saucissonnés sur leur lit. Ils ne préviendront le voisin que dans 1h30. Pendant ce temps-là, la femme est emmenée au commissariat de Champigny-sur-Marne. Elle s'appelle Jeannine Terriel. Et elle est bourrée, mais alors bourrée comme un coin. Une poivrotte, rougeaude et hop, en cellule de dégrisement. On vous entendra quand vous aurez des saoulés, madame. Vous pouvez juste nous donner le nom de l'homme qui était avec vous ? Yves Maupetit. Yves Maupetit, il s'appelle. Une fois qu'elle a dessoulé, Jeannine Terriel est emmenée au 36 quai des Orfèvres. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est fichée comme prostituée à Lyon. Elle a 47 ans et elle a vécu, la Jeannine. Petite, grassouillette, le teint rougeau des alcooliques, elle est abîmée. Et en plus, elle a un gros cocard, souvenir de son arrestation. Il n'empêche qu'on la cuisine tout de suite. L'interrogatoire commence pile au moment où le soleil émerge au-dessus de la Seine. À ce stade, elle n'est que la complice d'un type qui a tiré sur des policiers. Trois policiers. Et c'est elle, elle-même, qui lâche que le couple de tueurs de Sucy-en-Brie, c'est elle et Yves Maupetit. On lui demandait rien. Et en même temps, dans 1 heure ou 2, on aurait fait le lien entre les deux affaires, ne serait-ce que par la voiture. C'est Yves qui m'a embarqué là-dedans. Moi, je voulais pas tuer. bon. Elle sait pourtant que les enfants sont vivants, elle sait qu'ils ont parlé, qu'ils ont dit que c'est elle qui a tué leur père. Elle. Mais elle insiste. C'était son idée. C'est Yves qui a tout organisé. Le braquage de la villa, il savait que la famille avait du pognon planqué. Et d'ailleurs, elle dit que c'est lui qui a tué la mère. J'ai rien pu faire. En rentrant sur Paris, il m'a dit, tu te rends compte, on pouvait pas laisser traîner un témoin comme ça. À partir de maintenant, Yves Maupetit est l'homme le plus recherché de France. Et quand il passe son nom au fichier, les policiers du 36 s'aperçoivent qu'il a un sacré pédigré. Il n'a que 28 ans et il a déjà passé près de 8 années en prison. 11 condamnations, mais jamais pour des violences. Des cambriolages, des vols de voitures, et même là, c'est pas Mesrine. Hein. Il ne braque pas les banques, ni les casinos. Mais il y a mieux. Il est en cavale. 6 semaines avant la tuerie de Sucy-en-Brie, il était en prison et il a profité d'un examen médical pour s'arracher en passant par la lucarne des toilettes. Et c'est bizarre d'ailleurs, il ne lui restait que 2 mois de prison à faire. Et vous savez pourquoi, ou plutôt pour qui, il s'est évadé? Pour les beaux yeux de Jeannine, que diable! Eh oui, elle a 18 ans de plus que lui, elle est boulotte et rougeaude, mais il l'a dans la peau. La photo de Maupetit est distribuée aux journaux et aux 3 chaînes de télévision. On est à 3 mois des élections législatives de mars 1978. Les flics ont la pression. Et la photo fait sensation. Avec sa tignasse hirsute et sa moustache de gitan, Maupetit a effectivement la tête de l'emploi. Et il y a d'autant plus d'urgence à le retrouver que maintenant, les flics lui collent 2 autres agressions. À Trégny, dans l'Yonne, on a retrouvé le cadavre d'un retraité agricole farci de plomb. C'était 3 jours avant la tuerie de Sucy-en-Brie. Et à Corbas, près de Lyon, un cheminot a bien failli y passer. Les assaillants étaient 2, un homme et une femme. Réinterrogée, Jeannine Thériel confirme et se défausse. C'est Maupetit qui a tué le vieux et attaqué l'autre. D'ailleurs, il pensait l'avoir buté, lui aussi. C'est la confirmation que Maupetit est dans l'escalade. Si on ne l'arrête pas, il va tuer encore. Alors les policiers du 36 secouent les indiques, les balancent, mais cet Yves Maupetit est un solitaire. C'est pas un gars du milieu, il ne fréquente aucune bande, il est introuvable. On sait aujourd'hui ce qu'il a fait à ce moment-là. Le 18 janvier, il est allé à la gare Montparnasse et il a acheté un billet pour Auray, en Bretagne. Parce qu'à Auray, il connaît quelqu'un, un ami sûr, il compte sur lui pour lui procurer des faux papiers. Mais l'autre ne lui refile que quelques grenades qu'il fourre dans son sac avant de voler une voiture et de filer vers Nantes. Et à Nantes, dans une armurerie, il achète tranquillement une carabine de chasse et 2 boîtes de cartouches. On ne lui demande même pas ses papiers d'identité. Et ensuite, il va de Nantes à Nancy, toujours sans être inquiété. Et là encore, il pense qu'à Nancy, il a un ami. Mais l'autre lui raccroche au nez, il est carbonisé, il y a trop de flics sur son dos, personne ne veut l'aider. Alors ben, il va se débrouiller tout seul. Et d'ailleurs il a un plan à la noix, un plan à la con, mais c'est son plan. Il va prendre un otage. Le 20 janvier 1978, Maupetit revient en région parisienne. Dans la soirée, il arrive à la Ferté-sous-Jouarre. Et à 10h du soir, il décide de s'attaquer à une maison de retraite. Une maison de retraite des PTT. Et pour ne pas faire de bruit, il enfile des pantoufles et il escalade le mur. Au rez-de-chaussée, une fenêtre est encore éclairée. C'est le directeur et sa femme. Il entre et il les braque.
Je suis Maupetit, le tueur de Sucy-en-Brie. Je plaisante pas, hein. Il me faut du fric et vite, j'ai plus rien à perdre. On n'a pas l'habitude de se moquer de moi.
Mais le directeur de la maison de retraite lui répond qu'il n'a pas d'argent. Qu'importe, Il le ligote et il va faire le tour de l'appartement avec sa femme, Ghislaine. Elle lui plaît bien, Ghislaine, et il se met à lui faire des confidences.
« Ah, tu te rends compte ? Jeanine est en prison ! Elle risque la guillotine ! Je veux la faire libérer !»
Et comme elle lui plaît bien, Ghislaine, il la coince dans un coin et il la viole.
« Si tu résistes, je te tue !»
Et après, il l'embarque. Il embarque la femme du directeur de la maison de retraite. C'est ça, son plan. Il veut l'échanger contre Jeanine. C'est un plan complètement bretzingue. Il n'a aucune chance d'y arriver. Aucune. Mais il la fait monter dans sa voiture. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui dit
« Vaudrait mieux revenir à la maison de retraite. Il y a un coffre. »«
Ah ouais ? Et il y a combien dedans ?»«
Je sais pas. » Dans les 20 000 francs.
Deux briques. Pour deux briques, il fait demi-tour et il tombe sur la gardienne de la maison de retraite qui s'est réveillée. Il la ligote et il retourne voir le mari, le directeur, toujours ficelé comme un rôti.
La combinaison du coffre. Vite.
Dans le coffre, il y a 23 000 francs. Il les prend et il se tourne vers Ghislaine.
Tu viens avec moi.
Elle espérait qu'il se contenterait de l'argent. C'est râpé. Et Maupetit et son otage s'enfoncent dans la nuit. À 3 heures du matin, la gardienne de la maison de retraite parvient à se libérer et prévient les gendarmes.
Le doute n'est plus permis. Yves Maupetit, le tueur de Sucy-en-Brie, a refait surface et cette fois de façon spectaculaire et violente. On pensait qu'il n'avait plus qu'un seul but, se cacher, échapper à toutes les polices de France qui le recherchent depuis la tuerie de Sucy-en-Brie. Yves Maupetit a fait exactement le contraire, il a contre-attaqué, c'est pour récupérer son ami et complice, Jeanine Terriel, qu'il a pris en otage, une jeune femme de 26 ans. Pourquoi Maupetit s'en est-il pris aux Jacquemins en particulier, les connaissait-il ? Personne ne peut le dire. Peut-être a-t-il choisi de prendre un otage au hasard, afin qu'on libère son ami, ce qui semble évident. C'est que s'il en est arrivé à prendre un otage, c'est qu'il doit avoir une cachette, un endroit sûr, quelque part dans la région, où il peut garder Madame Jacquemin sans se faire repérer.
Une cache sûre. Maupetit et son otage échouent d'abord dans un hôtel, à Vincennes. Et au passage, il la viole à nouveau. Puis vers 10h30, il reprend la route et il s'arrête devant une cabine téléphonique, d'où il appelle le quotidien L'Aurore.
Ici Yves Maupetit. J'ai enlevé une femme. J'ai des grenades. J'hésiterai pas à tuer, hein, si Jeanine Terriel n'est pas libérée. Prévenez la police. Tous les barrages doivent être levés, sinon la femme ne reverra jamais les siens, hein. Je veux que la police annonce la libération de Jeanine sur Europe numéro 1.
Une demi-heure plus tard, sa voiture est repérée et elle est prise en chasse par la police. Mais encore une fois, il parvient à s'enfuir. Et maintenant, sa voiture est cramée. Alors il l'abandonne et il prend le RER. Et à l'approche de la gare de Saint-Maur-des-Fossés, il murmure à son otage « Je vais descendre bientôt. Garde l'air naturel. Ne te retourne pas. » Et au moment où les portes se referment, il saute sur le quai. Seul, il abandonne son otage. Trop risqué. Et il file à la gare de Lyon, il achète un billet de train pour Nice, il change de look, il coupe sa tignasse, il s'achète un beau costard, il se rase de près, il est méconnaissable. Et il fait le mort, il se planque à Nice, chez une prostituée. Mais il reste l'ennemi public numéro 1. Les policiers du 36 ont identifié 54 points de chute possibles, 54 personnes qu'ils connaissent suffisamment pour leur demander un service. Et notamment un type qui se trouve à Valence, dans la Drôme. Et bingo, le 31 janvier, Maupetit prend le train pour Valence. Et il vient sonner chez son ami. Personne. Il regarde sa montre, 19h. Ah, c'est l'heure de l'apéro, il doit être au bistrot. Et il débarque au bar d'à côté. Effectivement, son copain est là.
Tu bois quoi ? Je préférerais aller dehors. Ça va, j'attends ma femme, calme-toi.
Bon, alors je prends un pastis.
Il est méfiant, Maupetit. À la table d'à côté, il y a trois hommes et une femme qui discutent. Jolie, la blonde. Et au moment où il sort sa main de sa poche pour s'allumer une cigarette, les trois hommes et la blonde lui sautent dessus. C'était des flics. La blonde aussi. Le bistrot était bourré de flics jusqu'à la gueule. Il s'est fait piéger.
Qu'est-ce qu'il s'est rendu facilement ?
Ah ben, c'est-à-dire que nous l'avons interpellé, disons, de façon rapide et on a fait l'opération, disons.
Il n'a pas essayé de prendre des gens en otage ou de se défendre ?
Non, mais de toute façon, l'opération a été montée de façon qu'il n'avait pas le temps.
L'ennemi public numéro 1 a été arrêté et dans la nuit, il est ramené en région parisienne. Après 15 jours de cavale, Yves Maupetit se retrouve face à la juge d'instruction, Augusta Filippi. Au début, il joue les grands seigneurs.
« Je prends tout sur moi, hein. Jeannine n'a rien fait, c'est moi qui l'ai poussé !»
Sauf que ça n'est pas ce que disent les enfants Thoreau. Ils disent que c'est elle qui a abattu le père. Et Olivier l'aîné le répète à la juge.
« La femme semblait complètement folle, surexcitée, elle nous a injuriés. Elle a tiré presque à bout portant. Et quand j'ai vu le sang couler de la bouche et du nez, j'ai compris que papa était mort. »
Et Frédéric, 11 ans, rajoute.
« Elle m'a donné un coup de crosse. Elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle a mordu mon frère au pied. »
Alors, elle n'a vraiment rien fait, Jeannine ? Enfermé au QHS, le quartier de haute sécurité, Yves Maupetit, bien sûr, gamberge. Il risque sa tête sur ce coup-là et à bien y réfléchir. Jeannine l'a trahi. Elle le charge à mort. Elle le dépeint en monstre assoiffé de sang, en manipulateur. Alors c'est décidé. Il ne la protège plus. Mieux, désormais devant la juge, il l'enfonce.
Quand j'ai voulu libérer Michel Thériault, Jeannine, elle a pris le fusil et elle l'a abattu. C'est elle qui a tué la femme. C'est pas moi.
Désormais, c'est la guerre entre les deux amants. Parce qu'elle, elle n'a pas bougé. Elle assume le meurtre du père, mais pas celui de la mère.
Il m'a dit de tirer sur le père. C'est ce que j'ai fait. Mais pour le reste, c'est pas moi.
Ce sera donc aux jurés de les départager. Le procès de Jeannine Thériel et d'Yves Maupetit s'ouvre le 18 février 1981, devant les assises de Créteil. Et c'est un moment particulier. On est à 3 mois de l'élection présidentielle qui va possiblement amener au pouvoir François Mitterrand. Et Mitterrand a promis d'abolir la peine de mort. Mais pour l'instant, c'est toujours Giscard qui est au pouvoir. Et Yves Maupetit et Jeannine Thériel sont tous les deux passibles de la guillotine. Tous les deux. D'ailleurs, dans son arrêt de renvoi, la juge d'instruction n'a pas fait de distinguo entre l'une et l'autre. Elle les considère tous les deux comme co-auteurs des assassinats de Yves et Michel Thoreau, du meurtre du retraité de Lyon et de la tentative de meurtre sur le cheminot de Corba. En revanche, Yves Maupetit est accusé seul de l'enlèvement et du viol de Ghislaine qu'il avait prise en otage. En vérité, on sent dès le début du procès que l'affaire est pliée. Jeannine Thériel a pris 20 kilos depuis son arrestation. Elle n'a pas l'air d'une femme vénéneuse qui pousserait au crime. Alors que lui, il ressemble bien au psychopathe dont parlent les journaux. Alors il peut dire ce qu'il veut. Il est battu d'avance. D'autant qu'il ne cesse d'éructer dans le box.
L'instruction a été bâclée!
Et quand Jeannine parle,
elle dit n'importe quoi!
Le seul moment qui lui est favorable, finalement, c'est le témoignage des enfants Thoreau.
Pour des raisons faciles à comprendre, les deux enfants Thoreau ne sont pas venus à la barre des témoins. Mais leurs dépositions ont été lues. Elles sont accablantes pour Maupetit et Thériel. Les jurés ont appris, élément nouveau, que c'est volontairement que Jeannine Thériel avait blessé Olivier, 13 ans au moment des faits. La femme était complètement excitée, précisent les deux garçons. Elle hurlait, elle nous insultait. Olivier rapporte que, effectivement, Teriel a dit à Madame Thoreau « Regarde, je vais tuer ton mari », ce que l'accusé a toujours nié farouchement. Après le meurtre de papa, l'homme a fouillé toutes les pièces de la maison, continuent les enfants. Il est revenu avec des billets à la main. La femme tenait toujours son fusil. Elle nous a dit « N'essayez pas de vous évader, j'ai encore 3 balles ». Elle disait aussi qu'elle avait eu une jeunesse malheureuse, qu'elle était orpheline. L'homme, alors, nous a ligotés avec les cordons des rideaux. La femme était bizarre, elle nous caressait les cheveux et puis elle nous battait. Comme la télévision marchait encore, la femme a voulu l'arrêter, mais l'homme a monté le volume du son. Ils ont dû rester dans la maison 3 quarts d'heure et puis ils sont partis en emmenant maman. Des positions terriblement précises, on le voit, et que les accusés ont écoutées sans un mot et sans un signe de dénégation.
L'avocat de Jeannine Teriel, René Ayot, s'enquiert du niveau d'alcoolisme de Maupetit.
Vous buvez beaucoup, n'est-ce pas ?
Oui.
Oui, je buvais beaucoup.
Combien ?
Je pouvais aller jusqu'à 40 pastis par jour. Et une ou deux bouteilles de rouge pendant le repas.
40 pastis par jour. Le témoignage de Ghislaine, que Maupetit a enlevé et violé, finit d'enfoncer le clou. Le mercredi 25 février 1981, à 19h, les jurés rendent leur verdict. La mort pour Maupetit. La perpétuité pour Jeannine Teriel. Deux mois et demi plus tard, François Mitterrand est élu président de la République et conformément à sa promesse d'abolir la peine de mort, il accorde la grâce à Yves Maupetit. Sa peine est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Yves Maupetit et Jeannine Teriel sont tous les deux morts en prison.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.